Véroa Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et à tout le monde aujourd'hui, édition du mardi 28 mai 2019, en direct de Washington, Idrissa Seloudia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
En Guinée, le ministre de la Justice, Cheikh Sako, a démissionné en plein débat constitutionnel.
Mali International Crisis Group recommande, dans un rapport publié aujourd'hui, de tenter de dialoguer avec les djihadistes.
Au Soudan, grève générale de 48 heures à partir d'aujourd'hui, à l'appel de la contestation pour faire pression sur les militaires au pouvoir.
Au Japon, une écolière a été tuée et 17 autres personnes blessées dans une attaque au couteau ce mardi dans la banlieue sud de Tokyo.
Le président américain Donald Trump a quitté le Japon au terme d'une visite d'État de 4 jours.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
En Guinée, le ministre de la Justice, Cheikh Sako, a présenté sa démission au président Alpha Condé au moment où le pays connaît un vif débat sur l'opportunité d'une nouvelle constitution. Maître Sako s'oppose à toute modification de ce document fondamental. Le président Alpha Condé a nommé à sa place un ministre par intérim, Mohamed Lamine Fofana, son conseiller en charge des relations avec les institutions républicaines. Le point avec Zakaria Camara, notre correspondant à Conakry.
La nouvelle s'est vite répandue comme une traînée de poudre. D'abord parce qu'elle concerne l'un des proches collaborateurs du président Alpha Condé, mais aussi Maître Cheikh Sako annonce sa démission dans un contexte de crise qui oppose les magistrats au chef de file de la majorité présidentielle. Enfin, cette nouvelle est beaucoup commentée à cause des raisons du départ du ministre de la Justice. Dans le courrier qu'il a adressé lundi au président Condé, Maître Cheikh Sako dit n'avoir pas été associé à la rédaction de la nouvelle constitution, compte tenu de ma position personnelle contre toute modification ou changement de la constitution en vigueur, vous comprendrez que je ne puisse plus continuer à exercer la fonction de ministre de la Justice, garde des Sceaux, s'adresse-t-il au chef de l'État guinéen. Cheikh Sako affirme avoir tiré les conséquences du silence du président Condé depuis le 4 avril dernier, jour de leur rencontre, une rencontre au cours de laquelle le désormais ex-ministre de la Justice rappelle avoir demandé au président guinéen de le remplacer. Le Front National pour la Défense de la Constitution qualifie la démission de Cheikh Sako de salutaire et lance un appel aux autres membres du gouvernement de se désolidariser du projet de troisième mandat. C'est la troisième démission depuis l'arrivée d'Alpha Condé au pouvoir. Cette démission intervient après celle de Khalifa Gassama Diaby, ancien ministre de l'Unité nationale, et de Sidya Touré, ancien haut représentant du chef de l'État. Zakaria Camara pour VOA Afrique, Conakry.
Mali, le groupe de réflexion International Crisis Group recommande dans un rapport publié ce mardi de tenter d'établir un dialogue avec les djihadistes et leurs partisans face au cycle de violences meurtrières dans le centre du pays et sans perspective de solution militaire. L'ICG préconise non pas un arrêt des opérations contre le groupe du prédicateur radical Paul Amadou Koufa apparu en 2015 dans cette région, mais un changement de cap combinant pression militaire, dialogue et désarmement pour amener ses chefs à la table de négociation.
L'Organisation mondiale de la santé a annoncé hier le lancement d'une vaste campagne de vaccination contre le choléra dans l'est de la République démocratique du Congo. L'OMS rappelle ainsi que l'épidémie d'Ebola n'est pas la seule à frapper le pays. Plus de 800 000 personnes seront vaccinées contre le choléra dans le Nord Kivu, selon un communiqué conjoint OMS-Gavi, l'Alliance du vaccin. Plus de 10 000 cas de choléra ont été signalés en RDC depuis janvier 2019, entraînant plus de 240 décès. En outre, plus de 80 000 cas présumés de rougeole ont entraîné plus de 1 400 décès depuis le début de l'année, tandis qu'un cas de poliovirus de type 2 en circulation a été signalé dans la province du Kasaï plus tôt ce mois-ci.
Le Soudan s'apprête à observer ce mardi une grève générale de 48 heures, à l'appel de la contestation pour accroître la pression sur l'armée. Cette dernière refuse de transférer le pouvoir aux civils plus de 6 semaines après avoir écarté l'ex-président Omar el-Béchir sous la pression de la rue. Selon Sidik Farouk, un des leaders de la contestation, la grève a pour objectif d'envoyer un message clair au monde entier. Le peuple soudanais souhaite un changement réel et n'acceptera pas de laisser le pouvoir aux mains des militaires.
En Gambie, 7 militaires ont été condamnés hier par une cour martiale à 9 ans de prison et un autre à 3 ans pour faits de trahison et de mutinerie contre le président Adama Barrow quelques mois après le départ forcé de son prédécesseur Yahya Jammeh. Les précisions d'Irene Herman Ungbo.
Le président de la cour martiale, le colonel Salifou Boujong, a lu les noms des 7 condamnés à 9 ans de prison et de leurs camarades condamnés à 3 ans, tous étant radiés avec indignité des forces armées. Les condamnés et leurs proches ont réagi au verdict par des cris et des pleurs selon des témoins. Selon la cour, les condamnés avaient comploté l'arrestation de ministres et de responsables de l'armée. Ils ont aussi créé un groupe WhatsApp pour planifier des attaques contre la force de la CDAO dans la région d'origine de Yahya Jammeh. En revanche, les généraux Ansoumana Tamba, ancien commandant de la garde présidentielle, et Oumpa Mendy, ex-responsable de la protection rapprochée de Yahya Jammeh, ont été acquittés lors de notre procès en cour martiale. Cette décision doit encore être confirmée par le chef d'état-major en vertu de la réglementation militaire. La sécurité du pays est toujours assurée par les forces de la CDAO, dont le mandat a été prolongé à plusieurs reprises.
Au Malawi, le président sortant, Peter Mutharika, a été proclamé hier soir vainqueur de l'élection du 21 mai, avec moins de 160 000 voix d'avance sur son principal rival, Lazarus Chakwera. Sur fond d'accusations de fraude retardées 2 jours par la justice, les résultats complets annoncés par la commission électorale créditent M. Mutharika de 38,57% des suffrages et M. Chakwera de 35,41% des voix. La présidentielle se déroule en un seul tour au Malawi. La majorité relative suffit donc pour l'emporter.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Au Japon, 2 personnes, une écolière de 12 ans et un homme de 39 ans, ont été tués mardi près de Tokyo dans une attaque au couteau qui a également fait des blessés au moment où une file d'enfants attendait leur bus scolaire. L'homme semble être le père d'un des enfants qui se trouvait sur les lieux, a précisé la chaîne publique NHK, citant la police. Selon les médias locaux, l'agresseur présumé, âgé d'une 50aine d'années et apparemment muni de 2 couteaux, est également mort des suites des blessures qu'il s'est infligées. Les services de secours ont par ailleurs fait état d'au moins 16 blessés.
Le président américain Donald Trump a quitté le Japon aujourd'hui après une visite d'État de 4 jours, au cours de laquelle il a été le premier dirigeant étranger à rencontrer le nouvel empereur Naruhito. Hier, lors d'une conférence de presse, M. Trump et le premier ministre japonais Shinzo Abe ont exprimé des vues divergentes sur les tests de missiles effectués par la Corée du Nord et la question de savoir si ces tests violaient une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies. M. Trump et son hôte japonais ont réaffirmé leur identité de vue sur l'objectif ultime, la dénucléarisation de la péninsule coréenne. Nous y reviendrons en seconde partie de cette édition.
Téhéran a accusé hier Washington de nuire au peuple iranien et de causer des tensions dans la région, après que le président Trump a affirmé lundi au Japon ne pas viser un changement de régime en Iran, mais seulement l'absence d'armes nucléaires. Le chef de la diplomatie iranienne, Mohammad Javad Zarif, a nié que son pays détienne ce genre d'armes et a écrit dans un tweet « Des actions, pas des paroles, montreront si oui ou non il s'agit des intentions de Donald Trump ». Les États-Unis, qui parlent de menaces persistantes contre les forces américaines, ont annoncé vendredi le déploiement de 1500 soldats supplémentaires au Moyen-Orient ainsi que de nouvelles ventes d'armes à l'Arabie Saoudite, grand ennemi régional de l'Iran, et aux Émirats Arabes Unis.
En Syrie, au moins 17 civils, dont 5 enfants, ont été tués hier dans des raids aériens du régime syrien contre la province d'Idleb, dernier bastion djihadiste dans le nord-ouest du pays. Bagassikoura fait le point.
La province d'Idleb ainsi que des secteurs des provinces voisines de Hama, Alep et Latakié, contrôlés par Ayat Tahrir al-Sham, ex-branche d'Al-Qaïda, sont le théâtre depuis fin avril de raids intenses du régime et de son allié russe et d'affrontements meurtriers entre djihadistes et forces loyales au président Bachar al-Assad. 17 civils, dont 5 enfants, ont été tués lundi dans des frappes aériennes et des tirs de missiles contre la province d'Idleb, a indiqué le directeur de l'Observatoire syrien des droits de l'homme, Rami Abdel Rahman. 9 personnes, dont 3 enfants, ont péri dans la seule ville d'Aria, a ajouté Abdel Rahman en faisant état d'au moins 47 blessés dans l'ensemble de la province. Dimanche, des frappes menées par l'aviation syrienne ont tué 12 civils selon l'OSDH. Selon l'observatoire, plus de 250 civils, dont une cinquantaine d'enfants, ont déjà péri dans l'escalade des violences dans la région. Plus de 200 000 personnes ont en outre été déplacées durant la même période, selon les Nations Unies.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Nanit Talani.
La société de brasserie et des boissons gazeuses du Niger, Braniger, filiale du français Castel, cessera toutes ses activités dès juin en raison des pertes cumulées depuis plusieurs années et compte tenu de la baisse des ventes depuis le début de l'année. Le conseil d'administration a convoqué une assemblée générale le 10 juin en vue de dissoudre Braniger, qui emploie 120 personnes et environ 200 sous-traitants. Pour tenter de contrer cette décision aux conséquences économiques et sociale énorme, le gouvernement nigérien a engagé des consultations permettant de sauver l'entreprise. Sherpa ainsi que 9 autres associations et syndicats saisissent la justice en France pour obliger la société Bolloré à appliquer un plan d'action visant à améliorer les conditions de vie des communautés riveraines et travailleurs de plantation d'huile de palme au Cameroun, notamment la Soka Palme. Les ONG espèrent aussi des décisions importantes lors des assemblées générales de la SOCFIN et du groupe Bolloré. Les deux sociétés détiennent des participations dans Soka Palme. Terminons avec l'Afrique du Sud, premier pollueur du continent africain, qui instaure une taxe sur les émissions de carbone à l'endroit de toutes les entreprises du pays. Elle a été fixée à 7,4 euros par tonne de dioxyde de carbone. La taxe carbone entrera en vigueur le 1er juin.
Les sports à présent avec Yakuba Ouedraogo. Yakuba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Hervé Renard convoque 27 lions pour la préparation de la CAN 2019.
Oui, cette présélection du sélectionneur des lions de l'Atlas comprend notamment le joueur de couloir Achraf Hakimi du Borussia Dortmund, privé de la fin de saison sous blessure. Les cadres habituels sont également présents à l'image du capitaine Mehdi Benassia, mais aussi du maître à jouer de l'Ajax Amsterdam Hakim Ziyech, sans oublier le buteur vedette du Zamalek Khalid Boutaeb, vainqueur ce week-end de la Coupe de la CAF face à Berkane. Les joueurs convoqués sont attendus le 2 juin à Rabat pour un stage qui les verra affronter en amical la Zambie et la Gambie les 12 et 16 juin prochains au Grand Stade de Marrakech.
L'ex-présidente de la Fédération sierra-léonaise de football est acquittée.
Oui, Isha Johansen et l'ex-secrétaire général Chris Camara ont été acquittés par un tribunal de Freetown. Ils avaient été arrêtés en septembre 2016 et libérés sous caution à la suite d'une enquête de la commission anticorruption avant d'être mis en examen en septembre 2017. Cette commission les accusait d'avoir détourné un don de 50 000 dollars de la CAF destiné à l'achat de matériel IRM. Cette affaire avait conduit à la suspension de la fédération par la FIFA en octobre dernier. L'instance mondiale du foot dénonçait le limogeage d'Isha Johansen et de Chris Camara comme une ingérence du politique dans le football. Les matchs éliminatoires de la Sierra Leone pour la CAN 2019 avaient été annulés avant que la CAF ne disqualifie le pays en décembre dernier.
La FIFA a confirmé la suspension à vie de l'ex-patron du football brésilien.
Oui, Marco Polo Del Nero avait été exclu à vie de toute activité dans le football en avril 2018 par la commission de discipline de la FIFA. La sanction, assortie d'une amende de 889 000 euros, a été confirmée par la commission d'appel. Del Nero a été condamné par la justice interne de la FIFA pour avoir reçu des pots de vin de la part des sociétés de marketing sportif. En échange, il permettait l'octroi de juteux contrats de droits télé sur la Copa América, la Copa Libertadores et la Coupe du Brésil.
Ici aux États-Unis, les Américaines ont terminé leur préparation du Mondial 2019 en beauté.
Oui, les champions du monde en titre ont dominé les Mexicaines 3-0 pour leur dernier match de préparation. Au total, les Américaines ont remporté leurs 6 derniers matchs de préparation en marquant 23 buts et en concédant seulement 3, tous contre l'Australie. Depuis le début de l'année, les numéro 1 mondial n'ont connu la défaite qu'une seule fois en 10 matchs, mi-janvier contre la France au Havre 3-1. Elles font figure de co-favorites avec les Françaises pour le mondial qui aura lieu du 7 juin au 7 juin prochain. Avant de rallier la France, les Américaines se sont envolées la nuit dernière pour l'Angleterre où elles passeront une semaine près de Londres.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
En votre compagnie, Idrissa Seydoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Chaque vendredi, elles descendent dans la rue, elles veulent, tout comme la majorité des Algériens, un changement du système. Mais pour elles, la démocratie en Algérie passe par une reconnaissance des droits des femmes, présente en masse depuis le début du mouvement populaire. C'est un reportage de notre correspondant à Alger, Mehdi Aliou.
Au milieu de dizaines de milliers de protestataires, elles forment un carré féministe. Elles revendiquent leur part du changement, c'est-à-dire l'égalité des droits entre les hommes et les femmes en Algérie.
De peur que nos revendications, encore une fois, parce qu'historiquement elles ont toujours été reléguées au second plan, disant que ça n'était pas le moment et que c'était un risque de division, nous avons décidé de malgré tout maintenir nos revendications spécifiques, en particulier sur l'égalité en devoir et en droit entre les hommes et les femmes, et des revendications pour la citoyenneté. Et c'est pour cela que les groupes féministes ont décidé de créer un espace particulier qui serait un repère à l'intérieur du grand mouvement.
Cette initiative n'était pas gagnée d'avance. Ces manifestantes ont vite été prises à partie le 29 mars dernier. Elles ont été agressées verbalement et physiquement avant de faire l'objet de menaces de mort.
Le 29 mars, malheureusement, Ismaël Akhil a été agressé. J'en ai plusieurs de menaces. Mais bon, comme le carré féministe a été initié, c'est pas nouveau, donc on s'est adapté et on a maintenu le carré. Qui m'a dit d'ailleurs le 22 février, malgré super important de ne pas exclure les droits des femmes des revendications de tout le peuple algérien.
Malgré les agressions et les menaces, les féministes n'ont pas baissé les bras. Elles ont continué à se rassembler chaque vendredi pour faire entendre leurs revendications. Le carré a même valu la sympathie et la solidarité de plusieurs autres manifestants. En 14 vendredis de manifestation, ces féministes ont pu imposer leur présence et faire entendre leur voix. Elles sont toujours là pour exprimer le rejet des symboles du système et démontrer le rôle indéniable que jouent une fois encore les Algériens dans la réussite de ce Hirak. Mehdi Alioui pour VOA Afrique, Alger.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
En Centrafrique, une coopérative regroupant des femmes s'est créée autour de l'association Nara, un mot en langue nationale sango signifiant le savoir. Les initiatrices veulent valoriser leur talent à travers l'artisanat. De Bangui, Pascal Serra nous amène à leur rencontre.
C'est dans ce garage modeste que se retrouve un groupe de femmes avec un objectif commun, confectionner des objets d'art uniques. La vente de ces produits faits avec des matériaux locaux permet de soutenir par la même occasion ces artisanes en leur permettant d'avoir des revenus stables, d'avoir accès à une formation professionnelle et d'acquérir le sens du développement des affaires, comme le précise Inès Somamako, assistante gérante de l'association Ndara.
Dans l'association Ndara, notre but dans cette association, c'est d'aider les filles à faire quelque chose, à produire quelque chose de leurs mains. On produit des tapis, on peint, on fabrique les éléphants, c'est des jouets. On fabrique les pangolins, les sets de table, on les fabrique en tissu peint. Vous avez vu comment les filles travaillent? Elles sont trop belles, bien habillées, bien sapées, vraiment propres. C'est à cause de ce travail. Elles sont vraiment valorisées par les produits de leurs mains. Il y a beaucoup de choses qui ont changé dans notre pays. Ce que je peux dire aux jeunes filles, de se ressaisir, chercher à faire quelque chose de leurs mains, protéger leur famille pour
aider leur propre vie aussi.
Ce qui fait aussi la particularité de cette coopérative est surtout son aspect social. En effet, parmi les femmes présentes, une majorité exerce ces activités comme étant des mesures thérapeutiques suite aux événements tragiques que traverse la République centrafricaine. Ramatou Garga, membre de l'association, témoigne.
Ça détruit tout.
Il m'est arrivé quelque chose de terrible dans le village où j'habitais. Tous mes biens ont été pillés et détruits. Je n'avais plus rien, que ce soit de l'argent, des vêtements et même mon stock de sel pour faire mon commerce. Ils ont tout détruit. J'ai failli perdre connaissance. On tuait les gens sous mes yeux. Ce travail que je fais m'aide. Quand je viens travailler ici, cela me permet d'avoir un peu d'argent. Je veux une maison et je fais la scolarité de mes enfants et je les nourris.
En conclusion, les femmes sont formées à la fabrication des produits, mais aussi à la gestion des affaires, au marketing, et par la même occasion, elles sont soutenues dans le processus de la résilience. Au sein de cette coopérative, avoir d'une Dara, c'est non seulement être qualifié, mais c'est aussi reprendre goût à la vie.
Votre rendez-vous quotidien sur VOA Afrique à Bangui, c'est sur 101.7 FM en République centrafricaine.
Le président Donald Trump a assuré que les récents essais de missiles balistiques à courte portée effectués par la Corée du Nord ne sont pas une préoccupation personnelle, même s'ils constituent une violation des résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU. M. Trump a fait ses commentaires à Tokyo aux côtés du Premier ministre japonais, qui lui a un point de vue différent sur les essais nord-coréens, John Linden.
Il ne fait guère de doute que la Corée du Nord a testé 3 missiles balistiques à courte portée plus tôt ce mois. Un satellite commercial a même capturé une image d'une traînée de fumée provenant de l'un des missiles. Mais si vous écoutez les commentaires de Donald Trump en visite d'État au Japon, vous ne saurez pas du tout que les essais ont eu lieu.
Nous avons parcouru un long chemin. Il n'y a pas eu d'essai de fusée. Il n'y a pas eu d'essai nucléaire. Il y a eu très peu d'activité de ce point de vue.
Trump a également rejeté la position de son propre personnel qui soutient que ces lancements de missiles violent les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies.
Je vois les choses différemment. Je le vois comme un homme. Peut-être qu'il veut attirer l'attention, peut-être pas. Qui sait? Cela n'a pas d'importance. Tout ce que je sais, c'est qu'il n'y a pas eu d'essai nucléaire. Il n'y a pas eu de missile balistique. Il n'y a pas eu de missile à longue portée et je pense qu'un jour, nous aurons un accord.
L'approche plus douce de Trump pourrait être une tentative de sauvetage des pourparlers nucléaires avec la Corée du Nord. Mais cette position place des alliés des États-Unis, tels que le Premier ministre japonais Shinzo Abe, dans une position délicate.
Le lancement de missiles balistiques à courte portée par la Corée du Nord le 9 mai viole les résolutions de l'ONU et c'est extrêmement regrettable, comme je l'ai répété à maintes reprises. En même temps, je voudrais exprimer à nouveau mon respect pour la nouvelle approche adoptée entre le président Trump et le président Kim.
En Corée du Sud, le pays le plus menacé par les armes nord-coréennes, l'approche de Trump est bien accueillie par le gouvernement dont la priorité principale est l'amélioration des relations intercoréennes.
Bong Yong-jit, Institut d'études sur la Corée du Nord de l'Université de Yonsei.
Aussi longtemps que l'administration Trump espère avoir des négociations sérieuses avec Pyongyang sur la dénucléarisation de la péninsule coréenne, pourquoi ne pas faire preuve de souplesse dans le traitement des missiles à courte portée et des essais de tir?
En ignorant les tests de missiles de moindre envergure, certains analystes craignent que Trump ne donne l'assentiment à Kim pour tester de plus grosses armes. Mais pour d'autres, cela vaut mieux qu'un retour à 2017, lorsque Kim et Trump ont échangé des menaces d'annihilation nucléaire.
Dans de telles circonstances, ne rien faire de stupide est une action de politique étrangère très importante. Ce n'est difficile pour aucun gouvernement. Ne rien faire, ne pas sortir du rang, ce n'est pas aussi facile.
Trump a de nouveau déclaré lundi qu'il n'était pas pressé de conclure un accord nucléaire avec la Corée du Nord. Le sentiment n'est pas réciproque. Kim, le mois dernier, a annoncé qu'il laisserait à Trump jusqu'à la fin de l'année pour modifier son approche.
La voilà, merci.
d'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
D'autre part, le président Donald Trump envoie 1 500 militaires au Moyen-Orient pour décourager toute menace iranienne potentielle. La semaine dernière, des responsables de son administration ont indiqué aux législateurs américains que Washington ne cherchait pas à provoquer Téhéran. Les explications de Patsy Widakusrawa, correspondante de la VOA à la Maison-Blanche, reprise ici par Arzuma Compaoré.
Avant le Memorial Day, le président Donald Trump et la première dame Melania Trump ont visité les tombes des soldats au cimetière national d'Arlington. Un jour plus tard, il annonçait qu'il enverrait plus de troupes pour faire face aux tensions grandissantes au Moyen-Orient. Donald Trump, président des États-Unis.
Nous allons envoyer un nombre relativement restreint de soldats, principalement pour assurer la protection. Et des personnes très talentueuses se rendent actuellement au Moyen-Orient. Et nous verrons comment et ce qui se passera. Nous enverrons environ 1 500 personnes.
Des navires de guerre américains et des groupes de porte-avions ont déjà été déployés dans le golfe Persique. Des responsables de l'administration ont déclaré que cette initiative avait permis de mettre les menaces iraniennes en veilleuse. Patrick Shanahan, secrétaire à la défense par intérim.
Nous sommes dans la région pour gérer beaucoup de choses, mais pas pour entrer en guerre avec l'Iran.
Bien que Téhéran aussi dise qu'ils ne veulent pas de la guerre, les analystes estiment que le risque de confrontation est élevé. Dalia Dasakai est directrice du Centre pour les politiques publiques du Moyen-Orient à la RAND Corporation.
Chaque partie tente d'adopter une posture de dissuasion, donc présence accrue de forces américaines dans la région pour envoyer un message aux Iraniens. Si vous nous attaquez, nous exercerons des représailles. Les Iraniens font la même chose.
Après avoir retiré les États-Unis de l'accord nucléaire iranien en 2018, Trump a mené une campagne de pression maximale au moyen de lourdes sanctions pour empêcher l'Iran de produire des armes nucléaires et pour contenir son expansionnisme à travers le Moyen-Orient. Anthony Cordesman du CSIS.
Nous avons formulé 13 exigences complexes concernant les Iraniens, leurs relations avec tous leurs voisins ainsi qu'avec le monde entier.
Il est peu probable que l'Iran satisfasse à ces exigences. Le président Hassan Rouhani a rejeté l'idée de pourparlers, déclarant que l'Iran ne s'inclinera jamais. Ce qui se passera ensuite n'est pas clair. Trump parle durement de l'Iran, mais a fait campagne contre les guerres sans fin. Pendant ce temps, le conseiller à la sécurité nationale, John Bolton, a plaidé pour une action militaire et même un changement de régime.
L'ambiguïté sur ce que l'administration souhaite réellement crée des problèmes et rend difficile l'obtention des résultats escomptés.
Certains analystes considèrent que le manque de clarté sur l'Iran est emblématique de l'approche globale de la politique étrangère de Trump, dans laquelle l'administration s'efforce d'atteindre un résultat, mais manque de crédibilité dans ses messages.
Cela va de la stratégie clairement énoncée au tweet. Mais on ne sait jamais, au jour le jour, à quoi s'attendre.
Le déploiement des troupes est un changement de stratégie pour Trump, lui qui a insisté à plusieurs reprises sur la nécessité de réduire la présence militaire américaine dans la région.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Hello, hello, I'm your English host, je suis votre présentatrice pour l'anglais, Michelle Joseph, ici au micro. Voulez-vous mieux parler l'anglais? C'est fait. Retrouvez-moi tous les soirs à partir de 21h, temps universel, sur VOA Afrique et sur notre site internet à www.voaafrique.com. Cliquez sur Apprenez l'anglais pour retrouver les leçons de tous les jours. Et les week-ends sur Ondes Courtes, le samedi et le dimanche à 20h TU. Pour mieux parler l'anglais, to speak better English, ne ratez pas English USA sur VOA Afrique.
Le Monde Aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Daryl Smith. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Seloudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.